Chapitre 9. Quand la joie n'est guère qu'une douleur qui change de place. Tous ces souhaits, si vivement exprimés, devaient être exaucés avant la fin de la semaine. Seulement, leur réussite devait laisser ceux qui les avaient formés plus malheureux et plus tristes qu'auparavant. C'est la loi, toute joie contient quelques malheurs en germe. Gervaise d'abord ne riait plus au nez de Jacques Aubry, changement, si on se le rappelle, ardemment désiré par l'écolier. En effet, Jacques Aubry avait trouvé le lien doré qui devait enchaîner la légère jeune fille. Ce lien fut une jolie bague, ciselée par Benvenuto lui-même et figurant deux mains unies. Il faut savoir que depuis le jour du combat, Jacques Aubry s'était pris de vive amitié pour la franche et souveraine énergie de l'artiste florentin. Le lendemain du jour où la bague passa des mains de Jacques Aubry dans les mains de Gervaise, Gervaise reprit son sérieux et l'écolier espéra qu'elle était à lui. Le pauvre fou, c'est lui qui était à elle. Scozzone, selon son désir, parvint à ranimer dans le cœur de Benvenuto une étincelle de jalousie. Voici comment. Un soir que ses coquetteries et ses gentillesses avaient encore échoué devant l'impassible gravité du maître, elle prit à son tour un air solennel. « Benvenuto, dit-elle, savez-vous que vous ne paraissez guère songer à vos engagements envers moi ?»« Quels engagements, chère petite ?» répondit Benvenuto en ayant l'air de chercher au plafond l'explication de ce reproche. « Ne m'avez-vous pas promis 100 fois de m'épouser ?»«
Je ne me le rappelle pas, dit Benvenuto. »«
Vous ne vous le rappelez pas ?»«
Non, il me semble que j'ai répondu seulement, il faudra voir. »«
Eh bien, avez-vous vu ?»«
Oui. »«
Qu'avez-vous vu ?»«
Que j'étais trop jeune encore pour être à cette heure autre chose que ton amant, Scozzone. Nous reviendrons là-dessus plus tard. »
Et moi, je ne suis plus assez niaise, monsieur, pour me contenter d'une promesse si vague et vous attendre toujours.
Fais comme tu voudras, petite, et si tu es pressée, marche devant.
Mais qu'avez-vous donc après tout contre le mariage? Qu'est-ce que cela changera à votre existence? Vous aurez fait le bonheur d'une pauvre fille qui vous aime, et voilà tout.
Ce que cela changera à ma vie, Scozzone, dit gravement Cellini. « Tu vois cette chandelle dont la pâle lumière éclaire faiblement la vaste salle où nous sommes. Je pose un éteignoir sur la mèche. Il fait tout à fait nuit maintenant. Le mariage, c'est cet éteignoir. Rallume la chandelle, Scozzone, et je déteste l'obscurité. »«
Je comprends, s'écria avec volubilité Scozzone et éclatant en larmes. Vous portez un nom trop illustre pour le donner à une pauvre fille de rien qui vous a donné son âme, sa vie, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait donner, qui est prête à tout endurer pour vous, qui ne respire que par vous, qui n'aime que vous.
Je sais cela, Scozzone, et je t'assure que je t'en suis, on ne peut plus reconnaissant.
Qui a accepté de bon cœur et égayé autant qu'elle l'a pu votre solitude, qui, vous sachant jaloux, ne regarde plus les belles cavalcades d'archers et de sergents d'armes, qui a toujours fermé l'oreille aux doux propos, qu'elle n'a cependant pas manqué d'entendre, même ici.
« Même ici ?» interrompit Benvenuto.
« Oui, ici, ici même, entendez-vous »
« Scozzone, s'écria Benvenuto, ce n'est pas quelqu'un de mes compagnons, je l'espère, qui aurait osé outrager son maître à ce point. »
« Il m'épouserait celui-là, si je voulais, » poursuivit Scozzone, qui attribuait à une recrudescence d'amour le mouvement de colère de Cellini.
Scozzone parlait, « Quel est l'insolent? Ce n'est pas Ascanio, j'espère. »
« Il y en a un qui m'a dit plus de 100 fois, « Catherine, le maître vous abuse, il ne vous épousera jamais, vous, si bonne et si jolie. Il est trop fier pour cela, oh, s'il vous aimait comme je vous aime, et si vous vouliez m'aimer, moi, comme vous l'aimez. »
« le nom du traître !» s'écria Benvenuto, furieux.
« Mais je ne l'écoutais seulement pas, » reprit Scozzone, enchanté. « Au contraire, toutes ces douces paroles étaient perdues, et je le menaçais de tout vous dire s'il continuait. Je n'aimais que vous, j'étais aveugle, et le galant en était pour ses beaux discours et ses yeux doux. Oui, prenez votre air indifférent, faites semblant de ne pas me croire, ce n'en est pas moins vrai cependant. »
« Je ne te crois pas, Scozzone, » dit Benvenuto, qui vit bien que s'il voulait savoir le nom de son rival, il lui fallait employer un moyen tout différent de celui qu'il avait tenté jusqu'alors.
Comment, vous ne me croyez pas? S'écria Scottson, et interdite.
Non.
Vous pensez donc que je mens?
Je pense que tu t'abuses.
Aussi, à votre avis, on ne peut plus m'aimer?
Je ne dis pas cela.
Vous le pensez?
Benvenuto sourit, car il vit qu'il avait trouvé le moyen de faire parler Catherine.
Oh, même cependant, voilà la vérité, reprit Scottson.
Benvenuto fit un nouveau signe de doute.
Oh, même plus que vous ne m'avez jamais aimé, plus que vous ne m'aimerez jamais, entendez-vous bien, monsieur?
Benvenuto éclata de rire.
Je serais curieux, dit-il, de savoir quel est ce beau Médor.
Il ne s'appelle pas Médor, répondit Catherine.
Comment s'appelle-t-il donc? Amadis?
Il ne s'appelle pas Amadis non plus, il s'appelle
Galaor.
Il s'appelle Pagolo, puisque vous voulez le savoir.
Ah, c'est mon Pagolo, murmura Cellini.
Oui, c'est mon Pagolo, reprit Scottson, blessé du ton méprisant avec lequel Cellini avait prononcé le nom de son rival.
Un brave garçon, de bonne famille, rangé, peu bruyant, religieux, et qui ferait un excellent mari.
C'est ton opinion, Scottson?
Oui, c'est mon opinion.
Et tu ne lui as jamais donné aucune espérance?
Je ne l'écoutais même pas, j'étais bien sotte, mais désormais,
tu as raison, Scottson, et il faut l'écouter et lui répondre.
Comment cela? Qu'est-ce que vous dites donc?
Je te dis de l'écouter quand il te parlera d'amour et de ne pas le rebuter. Le reste n'est mon affaire.
Mais sois tranquille, j'ai mon idée.
À la bonne heure, cependant, j'espère bien que vous n'allez pas le punir tragiquement, ce pauvre diable qui a l'air de confesser ses péchés quand il dit « je vous aime ».
Jouez-lui un bon tour si vous voulez, mais pas avec votre épée surtout. Je demande grâce pour lui.
Nous rirons, répondit Benvenuto.
Et vous m'aimerez toujours?
Benvenuto lui donna sur le front un baiser affirmatif, c'est-à-dire la meilleure des réponses, attendu qu'elle répond à tout et ne répond à rien. La pauvre Scottson ne se doutait pas que le baiser de Cellini était le commencement de sa vengeance. Le vicomte de Marmagne, selon ses vœux, trouva Benvenuto seul. Voici comment la chose arriva. Aiguillonné par la colère du prévôt, excité par le souvenir des mépris de Madame d'Étampes et surtout piqué par l'éperon de sa furieuse avarice, le comte, déterminé à aller attaquer avec l'aide de ses deux sbires le lion dans son antre, avait choisi pour cette expédition le jour de la Saint-Éloi, fête de la Corporation des Orfèvres, moment où l'atelier devait être désert. Il cheminait donc sur le quai, la tête haute, le cœur palpitant, ses deux bravis marchant à 10 pas derrière lui.
Hein, « voilà, dit une voix à ses côtés, un beau seigneur qui s'en va en conquête amoureuse avec sa vaillante mine pour sa dame et ses deux sbires pour le mari. »
Marmagne se retourna, croyant que quelqu'un de ses amis lui adressait la parole, mais il ne vit qu'un inconnu qui suivait la même route que lui et que, dans sa préoccupation, il n'avait point aperçu.
« Je gage que j'ai trouvé la vérité, mon gentilhomme, » continua l'inconnu, passant du monologue au dialogue.
« Je parie ma bourse contre la vôtre, sans savoir ce qu'il y a dedans, cela m'est égal, que vous allez en bonne fortune.
Oh, ne me dites rien, soyez discret en amour, c'est un devoir. Quant à moi, mon nom est Jacques Aubry, mon état écolier, et je m'en vais de ce pas à un rendez-vous avec mon amante, Gervaise Philippot. » Une jolie fille, mais entre nous, d'une vertu bien terrible, mais qui cependant a fait naufrage devant une bague.
Il est vrai que cette bague était un joyau d'un merveilleux travail, une ciselure de Benvenuto Cellini, rien que cela. Jusque-là, le vicomte de Marmagne avait à peine écouté les confidences de l'impertinent discoureur et s'était bien gardé de répondre. Mais au nom de Benvenuto Cellini, toute son attention se réveilla.
« Une ciselure de Benvenuto Cellini, diable, c'est un présent un peu bien royal pour un écolier. »«
Oh, vous comprenez, mon cher baron, êtes-vous baron, comte ou vicomte ?»«
Vicomte, » dit Marmagne, en se mordant les lèvres de l'impertinente familiarité que l'écolier se permettait avec lui, mais voulant savoir s'il ne pourrait pas en tirer quelque chose.
« Vous comprenez bien, cher vicomte, que je ne l'ai pas acheté. »
« Ainsi, vous êtes l'ami de Cellini ?» demanda Marmagne.
« Oh, son plus intime, vicomte, et je m'en fais gloire. Entre nous, c'est à la vie, à la mort, voyez-vous. Vous le connaissez sans doute aussi, vous. »«
Oui.
Ah, vous êtes bien heureux. Un génie sublime, n'est-ce pas, mon cher? Pardon, je vous dis, mon cher, c'est façon de parler. Et puis d'ailleurs, je crois que je suis gentilhomme aussi, moi. Ma mère, du moins, le disait, à chaque fois que mon père la battait. Je suis donc, comme je vous le disais, l'admirateur, le confident, le frère du grand Benvenuto Cellini, et par conséquent, ami de ses amis, ennemi de ses ennemis, car il ne manque pas d'ennemis, mon sublime orfèvre. D'abord Madame d'Étampes, puis le prévôt de Paris, un vieux cuistre, puis un certain Marmagne, un grand Flandrin que vous connaissez peut-être et qui veut, à ce qu'on dit, s'emparer du grand Nel. Ah, par Dieu, il sera bien reçu. Benvenuto se doute donc de ses prétentions, demanda Marmagne, qui commençait à prendre un grand intérêt à la conversation de l'écolier. On l'a prévenu, mais chut, il ne faut pas le dire, afin que le susdit Marmagne reçoive la correction qu'il mérite. D'après ce que je vois, alors, Benvenuto se tient sur ses gardes, reprit le vicomte. Sur ses gardes? D'abord, Benvenuto y est toujours. Il a manqué, je ne sais combien de fois, d'être assassiné dans son pays. Dieu merci, il s'en est toujours bien tiré. Qu'entendez-vous par « sur ses gardes » ? Oh, je n'entends pas qu'il a garnison, comme ce vieux poltron de prévôt. Non, non, au contraire, il est même tout seul à l'heure qu'il est, attendu que les compagnons sont allés se réjouir à Vanves. Je devais même aller faire aujourd'hui une partie de paume avec lui, ce cher Benvenuto. Malheureusement, Gervaise s'est trouvée en concurrence avec mon grand orfèvre. Naturellement, comme vous comprenez bien, j'ai donné la préférence à Gervaise. En ce cas, je vais vous remplacer, dit Marmagne. Eh bien, allez-y, vous ferez une action méritoire. Allez-y, mon cher vicomte, et dites de ma part à mon ami Benvenuto qu'il aura ma visite ce soir. Vous savez, trois coups un peu forts, c'est le signal. Et Jacques Aubry, les mains dans les poches et se dandinant comme d'habitude, prit en sifflotant un air de basoche la rue du Battoir, au bout de laquelle demeurait Gervaise. Quant au vicomte de Marmagne, il continua son chemin vers le Grand Nel. En effet, comme l'avait dit Aubry, Benvenuto se trouvait seul. Ascanio était allé rêver je ne sais où, Catherine visitait une de ses amies avec Dame Rupert, et les compagnons faisaient la Saint-Éloi à Vanves. Le maître était dans le jardin, travaillant un modèle en terre de sa statue gigantesque de Mars, dont la tête colossale regardait par-dessus les toits du Grand Nel et pouvait voir le Louvre, quand le petit Jehan, qui ce jour-là était de garde à la porte, trompé par la manière de frapper de Marmagne et le prenant pour un ami, l'introduisit avec ses deux sbires. Si Benvenuto ne travaillait pas comme Titien, la cuirasse sur le dos, il travaillait au moins comme Salvatore Rosa, l'épée au côté et l'escopette à la main. Marmagne vit donc qu'il n'avait pas gagné grand-chose à surprendre Cellini, puisqu'il avait surpris un homme armé, et voilà tout. Le vicomte n'en essaya pas moins de masquer sa poltronnerie d'impudence, et comme Cellini, de ce ton impératif qui ne permettait pas de retard dans la réponse, lui demandait dans quelle intention il se présentait chez lui, « Je n'ai pas affaire à vous, dit-il, je m'appelle le vicomte de Marmagne, je suis secrétaire du roi, et voici un ordre de sa majesté, ajouta-t-il en élevant un papier au-dessus de sa tête, qui m'accorde la concession d'une partie du Grand Nel. Je viens donc prendre mes dispositions pour faire arranger à mon gré la portion de l'hôtel qui m'est allouée et que j'habiterai désormais. » Et disant cela, Marmagne, suivi toujours de ses deux sbires, s'avança vers la porte du château. Benvenuto mit la main sur son escopette, qui, ainsi que nous l'avons dit, était toujours à sa portée, et d'un seul bond se trouva au haut du perron et en avant de la porte. « Halte là ! S'écria-t-il d'une voix terrible, et étendant le bras droit vers Marmagne, « un pas de plus et vous êtes mort !» Le vicomte s'arrêta tout court en effet, quoique, d'après les préliminaires, on s'attende peut-être à un combat acharné. De plus, en comprenant que son maître était menacé, le petit Jehan s'était saisi d'une pique. Marmagne sentit que c'était partie manquée et qu'il serait trop heureux s'il se tirait maintenant sain et sauf du guépier où il s'était fourré. « c'est bien, dit-il, maître orfèvre. Tout ce que nous voulions, c'est de savoir si vous étiez disposé ou non à obéir aux ordres de sa majesté. Vous méprisez ses ordres, vous refusez de leur faire droit. À la bonne heure, nous nous adresserons à qui saura bien vous les faire exécuter. Mais n'espérez pas que nous vous ferons l'honneur de nous commettre avec vous. Bonsoir. » « Bonsoir, dit Benvenuto en riant de son large rire. Jean, reconduis ces messieurs !» Le vicomte et les deux sbires sortirent honteusement du grand aile, intimidés par un homme et reconduits par un enfant. Cependant, Ascanio avait fini le dessin de son lys, et, soit par curiosité d'esprit, soit par cet attrait qui attire les malheureux vers ceux qui les plaignent, Ascanio s'était aussitôt acheminé vers l'hôtel des Tempes. Il était 2 heures de l'après-midi à peu près, et justement à 7 heures, la duchesse trônait, environnée d'une véritable cour. Mais comme au Louvre pour Cellini, des ordres avaient été donnés à l'hôtel des Tempes pour Ascanio. Ascanio fut donc introduit à l'instant même dans une salle d'attente, et puis on alla prévenir la duchesse. La duchesse tressaillit de joie en songeant que le jeune homme allait la voir dans toute sa splendeur et donna tout bas quelques ordres à Isabeau qui s'était chargé auprès d'elle du message. En conséquence, Isabeau vint retrouver Ascanio et le prenant par la main sans rien dire, elle le fit entrer dans un corridor, souleva une tapisserie et le poussa doucement en avant. Ascanio se trouva dans le salon de réception de la duchesse, derrière le fauteuil de la souveraine du lieu, qui, le devinant près d'elle, plus encore au frémissement de toute sa personne qu'au froissement que la tapisserie lui donna par-dessus son épaule, que dans la position où il était, Ascanio effleurait presque des lèvres sa belle main à baiser. La belle duchesse était, comme nous l'avons dit, entourée d'une véritable cour. À sa droite était assis le duc de Médina Sidonia, ambassadeur de Charles Quint. Monsieur de Montbrillon, gouverneur de Charles d'Orléans, le second fils du roi, était à sa gauche. Le reste de la compagnie se tenait en cercle à ses pieds. Ainsi, les principaux personnages du royaume, hommes de guerre, hommes d'État, magistrats, artistes, il y avait encore là les chefs du parti protestant que Madame d'Étampes favorisait en secret, tous grands seigneurs courtisés et qui s'étaient fait courtisans de la favorite. C'était un mouvement splendide et dont le premier aspect éblouissait. La conversation s'animait de toutes sortes de railleries sur Diane de Poitiers, la maîtresse du dauphin et l'ennemi de Madame d'Étampes, mais Anne ne prenait part à cette petite guerre de quolibets que par quelques mots rapidement jetés au hasard, comme « Allons, allons, messieurs, pas de médisance sur Diane, Endymion se fâcherait », ou bien « Cette pauvre Madame Diane, elle se mariait le jour de ma naissance ». À part ces éclairs dont elle illumine la causerie, Madame d'Étampes ne parle guère qu'à ses deux voisins. Elle le fait à demi-voix, mais d'une façon très animée, et non point tellement bas d'ailleurs qu'elle ne puisse être entendue d'Ascanio, humble et perdu parmi tant d'illustres gentilshommes. « Maître Clément Marot, dit la duchesse en rompant brusquement l'entretien, Maître Clément Marot, n'avez-vous point par hasard quelque gentil madrigal, quelque sonnet bien sonnant à nous dire ?»« Madame, dit le poète, sonnets et madrigaux sont sous vos pas fleurs nouvelles et qui poussent au soleil de vos beaux yeux. Aussi viens-je de trouver un dizain rien qu'en le regardant. » « Vraiment, maître, hein, messire le prévôt, soyez le bienvenu, et pardonnez-moi de ne pas vous avoir vu tout d'abord. Avez-vous des nouvelles de votre gendre, futur notre ami le comte d'Orbec ?»« Oui, madame, répondit messire d'Estourville, il me mande qu'il doit avancer son retour, et nous le verrons sous peu, j'espère. » Un soupir à demi étouffé fit tressaillir Madame d'Étampes, mais sans se retourner vers celui qui l'avait poussé, « Il sera le bienvenu pour tous. Êtes-vous prêt, maître Clément? Nous sommes tout oreilles. » « C'est sur le duché des Tempes, dit Clément Marot. » Un murmure d'approbation se fit entendre, et le poète commença d'une voix précieuse le dizain suivant. « Ce plaisant val que l'on nomme Tempé, dont mainte histoire est encore embellie, arrosé d'eau si doux, si attrempé, sachez que plus il n'est en Thessalie. Jupiter, roi qui les cœurs gagnés lie, là de Thessalie en France remué, et quelque peu son propre nom muet, car pour Tempé veut qu'Étampes s'appelle, ainsi lui plaît, ainsi la située, pour y loger de France la plus belle. » Madame d'Étampes applaudit des mains et du sourire, et toutes les mains et toutes les lèvres applaudirent après elle. « Allons, dit-elle, je vois qu'en même temps que Tempé, Jupiter a transporté Pindarus en France. » Ce disant, la duchesse se leva, et tout le monde se leva avec elle. Cette femme avait raison de se croire la véritable reine. Aussi, ce fut avec un geste de reine qu'elle prit congé de tous les assistants, et ce fut comme une reine que tous la saluèrent en se retirant. « Restez là, » dit-elle à voix basse, à Ascanio. Ascanio obéit. Mais quand tout le monde fut dehors, ce ne fut plus la reine dédaigneuse et hautaine, ce fut la femme humble et passionnée qui se retourna vers le jeune homme. Ascanio, né dans l'obscurité, élevé loin du monde, dans le demi-jour presque claustral de l'atelier, Ascanio, hôte inaccoutumé des palais où rarement il avait suivi son maître, était déjà étourdi, troublé, ébloui par cette lumière, ce mouvement, cette conversation. Son esprit avait éprouvé quelque chose comme un vertige quand il avait entendu Madame d'Étampes parler si simplement, ou plutôt si coquettement, de projets si graves, et assembler dans une phrase familière les destins des rois et la fortune des royaumes. Cette femme venait, comme la Providence, de faire à chacun, en quelque sorte, sa part de douleurs et de joies. Elle l'avait de la même main secoué les chaînes et laissé tomber les couronnes. Et cette souveraine des plus hautes choses de la terre, si fière avec les nobles flatteurs, revenait à lui non seulement avec le doux regard d'une femme qui aime, mais encore avec l'air suppliant de l'esclave qui craint. Tout à coup, de simple spectateur, Ascanio devenait le principal personnage de la pièce. Au reste, la coquette duchesse avait habilement calculé et ménagé cet effet. Ascanio sentit l'emprise que cette femme prenait malgré lui, non pas sur son cœur, mais sur sa pensée, et comme un enfant qu'il était, il s'arma de froideur et de sévérité pour cacher son trouble. Puis, entre lui et la duchesse, peut-être avait-il vu passer comme une ombre sa chaste colombine avec sa robe blanche et son front lumineux. « Madame, dit Ascanio à la duchesse d'Étampes, vous m'aviez demandé un lys, vous le rappelez-vous? Vous m'avez ordonné de vous en rapporter le dessin aussitôt que ce dessin serait fini. Je l'ai achevé ce matin et le voilà. » « Nous avons le temps, Ascanio, dit la duchesse avec un sourire et une voix de sirène. « Asseyez-vous donc. Eh bien, mon gentil malade, votre blessure ?»« Je suis maintenant tout à fait guéri, madame, répondit Ascanio. « Guéri à l'épaule. Mais là, dit la duchesse en posant sa main sur le cœur du jeune homme avec un geste plein de grâce et de sentiment. Je vous supplie, madame, d'oublier toutes ces folies dont je m'en veux d'avoir importuné votre seigneurie. Oh, mon Dieu, qu'est-ce donc que cet air contraint? Qu'est-ce que ce front rembruni? Qu'est-ce que cette voix sévère? Et tous ces hommes vous ennuyaient, n'est-ce pas, Ascanio? Et moi donc, je les hais, je les aborde, mais je les crains. Oh, que j'avais hâte d'être seul avec vous. Aussi, avez-vous vu, comme je les ai, lestement congédiés? Vous avez raison, madame, je me sentais déplacé dans une si noble compagnie, moi, pauvre artiste, venu simplement pour vous montrer ce lys. Et mon Dieu, tout à l'heure, Ascanio, continua la duchesse en secouant la tête, vous êtes bien froid et bien sombre avec une amie. L'autre jour, vous avez été si expansif et si charmant. D'où vient ce changement, Ascanio? Sans doute de quelques discours de votre maître, qui ne peut me souffrir. Comment l'écoutez-vous sur mon compte, Ascanio? Voyons, soyez franc. Vous avez parlé de moi avec lui, n'est-ce pas? Et il vous a dit qu'il était dangereux de se fier à moi, que l'amitié que je vous avais montrée cachait quelques pièges. Il vous a dit, répondez, que je vous détestais peut-être. « Il m'a dit que vous m'aimiez, madame, » répondit Ascanio en regardant fixement la duchesse. Madame d'Étampes resta un instant muette sous le coup des mille pensées qui se heurtèrent dans son âme. « Bien oui, dit-elle, je t'aime. Est-ce un crime? Est-ce même une faute? Et peut-on commander à son amour ou à sa haine? Tu n'aurais jamais su que je t'aimais, car à quoi bon te le dire, puisque tu en aimes une autre? Mais cet homme t'a tout révélé, il t'a montré mon cœur. Il a bien fait, Ascanio. » « Regarde-y donc, et tu y verras une adoration si profonde que tu en seras touché. Et maintenant, à ton tour, entends-tu bien, Ascanio, il faut que tu m'aimes. » âne des tempes, nature supérieure et forte, dédaigneuse par pénétration, ambitieuse par ennui, avait eu jusque-là plusieurs amants, mais pas un amour. Elle avait séduit le roi, l'amiral Brion l'avait surprise, le comte de Longueval lui avait plu, mais dans toutes ses intrigues, la tête avait toujours joué le rôle du cœur. Enfin, elle trouvait un jour cet amour jeune et vrai, tendre et profond, tant de fois appelé et toujours inconnu, et cette fois, une autre femme le lui disputait. Ah, tant pis pour cette femme. Pauvre Colombe, en ce moment courbée sur sa tapisserie, assise à son rouet ou agenouillée devant son prie-Dieu. Pour Ascanio, en présence d'un amour si franc et si redoutable, il se sentait en même temps fasciné, entraîné, effrayé. Benvenuto l'avait dit, et Ascanio le comprenait maintenant. Il ne s'agissait plus là d'un caprice, mais il lui manquait non pas la force qui lutte, mais l'expérience qui trompe et soumet. Il avait 20 ans à peine, il était trop candide pour feindre. « Allons, Ascanio, » reprit avec plus de calme la duchesse, voyant que le jeune homme se taisait, effrayé peut-être par les paroles qu'elle l'avait dites, « oublions pour aujourd'hui mon amour, qu'un mot imprudent de vous a mal à propos éveillé, ne pensons actuellement qu'à vous. Oh, je vous aime plus pour vous que pour moi, je vous le jure. À votre tour, voyons, faites-moi vos confidences, Ascanio. Quels sont vos souhaits que je les accomplisse? Quelles sont vos passions que je les serve? Madame, je veux être aussi franc et aussi loyal que vous, et je veux vous dire la vérité, comme vous me l'avez dite. Je ne désire rien, je ne souhaite rien, je ne veux rien que l'amour de Colombe. Mais puisqu'elle ne t'aime pas, m'as-tu dit toi-même? Je désespérais l'autre jour, c'est vrai, mais aujourd'hui, qui sait? Ascanio baissa les yeux et la voix. Vous m'aimez bien, vous, dit-il. La duchesse demeura atterrée devant cette grande vérité, devinée par l'instinct de la passion. Il y eut un moment de silence, mais ce moment lui suffit pour se remettre. « Ascanio, dit-elle, ne parlons pas aujourd'hui des choses du cœur. Je vous en ai prié déjà, je vous en prie encore. Voyons, l'amour pour vous autres hommes n'est pas toute la vie. N'avez-vous jamais, par exemple, souhaité les honneurs, la richesse, la gloire ?»« Oh, si, si, depuis un mois je les souhaite, ardemment, » répondit Ascanio, toujours entraîné malgré lui vers une pensée constante. Il y eut une nouvelle pause. « Aimez-vous l'Italie ?» demanda Anne avec effort. « Oui, madame, » répondit Ascanio. « Là-bas, il y a des orangers fleuris sous lesquels la causerie est si douce. Là-bas, l'air bleu entoure, caresse et pare si bien les sereines beautés. Oh, t'emportez-la à moi seul. Être tout pour toi comme tu serais tout pour moi. Ah, mon Dieu !» s'écria la duchesse, ramenée elle aussi invinciblement à son amour. Mais aussitôt, craignant d'effrayer encore Ascanio, elle se reprit et continua. « Je croyais, dit-elle, qu'avant tout, vous aimiez l'art. »« Avant tout, j'aime. Aimer, dit Ascanio. Oh, ce n'est pas moi, c'est mon maître Cellini qui donne à ses créations tout son être. Le grand, le sublime artiste, c'est lui. Moi, je suis un pauvre apprenti, et voilà tout. Je l'ai suivi en France, non pas pour gagner des richesses, non pas pour acquérir de la gloire, mais parce que je l'aimais, voilà tout, et qu'il est impossible de me séparer de lui, car à cette époque il était tout pour moi. Moi, je n'ai pas de volonté personnelle, je n'ai point de force indépendante, je me suis fait orfèvre pour lui plaire et parce qu'il le souhaitait, comme je me suis fait ciseleur parce qu'il était enthousiaste des ciselures fines et délicates. Eh bien, dit la duchesse, écoute, vivre en Italie, tout puissant, presque roi, protéger les artistes, Cellini tout le premier, lui donner du bronze, de l'argent, de l'or à ciseler, à fondre, à mouler, aimer et être aimé par-dessus tout cela, dit Ascanio, n'est-ce pas un beau rêve? C'est le paradis, madame, si c'est Colombe que j'aime et dont je suis aimé. Ah, encore Colombe, toujours Colombe, s'écria la duchesse. Soit donc, puisque ce sujet revient toujours obstinément dans nos paroles et dans nos âmes. Puisque ta Colombe est là entière avec nous, sans cesse devant tes yeux, sans cesse dans ton cœur, parlons d'elle et de moi franchement, et sans hypocrisie. Elle ne t'aime pas, tu le sais bien. Non, je ne le sais plus, madame. Mais puisqu'elle en épouse un autre, s'écria la duchesse. Son père la force, peut-être, répondit Ascanio. Son père la force. Et crois-tu, si tu m'aimais comme tu l'aimes, crois-tu, si j'étais à sa place, qu'il existerait au monde une force, une volonté, une puissance qui nous séparerait l'un de l'autre? Oh, je quitterais tout, je fuirais tout, j'accourrais à toi, je te donnerais à garder mon amour, mon honneur, ma vie. Non, non, je te dis qu'elle ne t'aime pas. Et maintenant, veux-tu que je te dise quelque chose de plus encore? C'est que tu ne l'aimes pas non plus, toi. Moi, ne pas aimer Colombe? Je crois que vous avez dit que je ne l'aimais pas, madame. Non, tu ne l'aimes pas. Tu te trompes toi-même. À ton âge, on prend pour de l'amour le besoin d'aimer. Si tu m'avais vu la première, c'est moi que tu aimerais au lieu d'elle. Oh, quand je pense à cela, que tu pouvais m'aimer, mais non, non, il vaut mieux que tu me choisisses. Je ne connais pas cette Colombe. Elle est belle, elle est pure, elle est tout ce que tu voudras, mais ces jeunes filles, elles ne savent pas aimer. Moi, je puis te servir en beaucoup de choses. J'ai souffert pour deux d'abord, et Dieu permettra peut-être que mon surplus de souffrance te soit compté. Et puis, ma richesse, mon pouvoir, mon expérience, je mets tout à tes genoux. J'ajouterai ma vie à la tienne, je t'épargnerai toutes sortes d'erreurs et de corruptions. Pour arriver à la fortune et même à la gloire, il faut souvent qu'un artiste devienne bas, rampant, vil. Tu n'auras rien à craindre de tout cela avec moi. Je t'élèverai sans cesse, je serai ton marchepied. Avec moi, tu resterais le fier, le noble, le pur Ascanio. Et Colombe, madame, n'est-elle pas aussi une perle immaculée? « Mon enfant, crois-moi, » répondit la duchesse, passant de l'exaltation à la mélancolie, « ta candide, ton innocente Colombe, te fera une existence aride et monotone. Vous êtes trop divins tous les deux. Dieu n'a pas fait les anges pour les unir les uns aux autres, mais pour rendre meilleurs les méchants. » Et la duchesse dit tout cela avec une action si éloquente, avec une voix si pleine de sincérité, Ascanio se sentit enveloppé malgré lui d'un sentiment de tendre pitié. « Hélas, madame, dit-il, je vois bien que je suis aimé par vous, et j'en suis bien tendrement ému, mais c'est encore meilleur d'aimer. Oh, comme c'est vrai ce que tu dis là. J'aime mieux tes dédains que les plus douces paroles du roi. Oh, j'aime pour la première fois, je te le jure. Le roi, vous ne l'aimez donc pas, madame ? Non, je suis sa maîtresse sans qu'il soit mon maître. Mais il vous aime encore, lui. Mon Dieu ! S'écria Anne en regardant fixement Ascanio et en enfermant les deux mains du jeune homme dans les siennes. Mon Dieu, serais-je assez heureuse pour que tu fusses jaloux ? Est-ce que le roi te porterait ombrage ? Écoute, j'ai été jusqu'à présent pour toi, la duchesse riche, noble et puissante, t'offrant de remuer des couronnes et de bouleverser des trônes. Aimes-tu mieux la pauvre femme simple, solitaire, hors du monde, avec une simple robe blanche et une fleur des champs dans les cheveux? Aimes-tu mieux cela, Ascanio? Quittons Paris, le monde, la cour, partons, réfugions-nous dans un coin de ton Italie, sous tes hauts pins de Rome, près de ton beau golfe napolitain. Mais voilà, je suis prête. Oh, Ascanio, Ascanio, cela flatte-t-il véritablement ton orgueil que je te sacrifie un amant couronné? « Madame, dit Ascanio, qui sentait malgré lui fondre son cœur à la flamme d'un si grand amour, « madame, j'ai le cœur trop fier et trop exigeant. Vous ne pouvez pas me donner le passé. »« Le passé ? Oh, vous voilà, vous autres hommes, toujours cruels. Le passé, mais une malheureuse femme devrait-elle répondre de son passé quand ce sont presque toujours les événements et les choses plus forts qu'elle qui ont fait ce passé ? Oh, Ascanio, Ascanio, je t'avais cru meilleur que les autres parce que tu étais plus jeune, parce que tu étais plus beau. Oh, madame, tends-moi la main, Ascanio, et d'un bond, je m'élancerai du fond de l'abîme jusque sur ton cœur. Le veux-tu? Demain, j'aurai rompu avec le roi, avec la cour, avec le monde. Oh, je suis vaillante en amour, va. Madame, madame, s'écria Ascanio en cachant sa tête dans ses mains, et en fermant à la fois ses yeux et ses oreilles, tant il sentait que la vue et l'accent de la sirène le fascinaient. « Ne m'appelle pas, madame, ne m'appelle pas non plus Anne, » dit la duchesse, en écartant les mains du jeune homme. « Appelle-moi Louise. C'est mon nom aussi, mais un nom que personne ne m'a donné, un nom qui sera à toi seul. Louise, Louise, Ascanio, ne trouves-tu donc pas que c'est un doux nom ?
J'en sais un plus doux encore, dit Ascanio. Prends garde, Ascanio, s'écria la lionne blessée. Si tu me fais trop souffrir aussi, peut-être arriverai-je à te haïr autant que je t'aime.
Mon Dieu, madame, répondit le jeune homme, secouant la tête comme pour écarter le prestige, mon Dieu, c'est vous qui confondez ma raison et qui bouleversez mon âme. Ai-je le délire, ai-je la fièvre, suis-je en proie à un rêve? Si je vous dis des paroles dures, pardonnez-moi, c'est pour me réveiller moi-même. Je vous vois là, à mes pieds, vous, belle, vous, adorée, vous, reine. Il n'est pas possible qu'il y ait de pareilles tentations, si ce n'est pour perdre les âmes. Ah, ne mettez pas ma faiblesse à une pareille épreuve.
Il n'y a là ni épreuve, ni tentation, ni rêve, il y a... pour nous deux, une resplendissante vérité. Je t'aime, Ascanio, je t'aime.
Vous m'aimez, mais vous vous repentirez dans l'avenir de cet amour. Vous vous reprocherez, vous me reprocherez un jour ce que vous aurez fait dans ma vie ou ce que j'aurais défait dans la vôtre.
Ah, tu ne me connais pas, s'écria la duchesse. Si tu me crois assez faible pour me repentir, tiens, veux-tu une garantie?
Ayane alla vivement s'asseoir devant une table sur laquelle il y avait de l'encre et du papier, et saisissant une plume, elle écrivit à la hâte quelques mots.
« Tiens, dit-elle, et doute encore si tu l'oses. »
Ascanio prit le papier et lut. « Ascanio, je t'aime, suis-moi où je vais, ou laisse-moi te suivre où tu iras, Anne Delly. »
Oh, « cela ne se peut pas, madame, il me semble que mon amour serait une honte pour vous. »
Une honte, s'écria la duchesse. Est-ce que je connais la honte, moi? J'ai trop d'orgueil pour cela. Mon orgueil, c'est ma vertu à moi.
Ah, j'en sais une plus douce et plus sainte, dit Ascanio, se rattachant au souvenir de Colombe par un effort désespéré.
Le coup porta en plein cœur. La duchesse se leva debout, toute frémissante d'indignation.
« Vous êtes un enfant entêté et cruel, Ascanio, » dit-elle d'une voix entrecoupée. « J'aurais voulu vous épargner bien des souffrances, mais je vois que la douleur seule peut vous apprendre la vie. Vous me reviendrez, Ascanio, mais vous me reviendrez blessé, saignant, déchiré, et vous saurez alors ce que vaut votre Colombe et ce que je valais. Je vous pardonnerai d'ailleurs parce que je vous aime, mais d'ici là, il se passera de terribles choses. Au revoir. »
Et Madame d'Étampes sortit tout effarouchée de haine et d'amour, oubliant qu'elle laissait aux mains d'Ascanio ces deux lignes qu'elle avait écrites dans un moment de délire. Dès qu'Ascanio fut hors de la présence de Madame d'Étampes, la prestigieuse influence que répandait cette femme se dissipa, et il vit clair en lui et autour de lui. Or, il se souvenait de deux choses qu'il avait dites. Colombe pouvait l'aimer, puisque la duchesse d'Étampes l'aimait. Cette scène ardente et périlleuse avec Anne servit Ascanio en quelque sorte. Il en rapportait je ne sais quelle exaltation et quelle confiance. Sa pensée, enivrée du spectacle auquel elle avait assisté ainsi que de ses propres efforts, était en train d'activité et d'audace, si bien qu'il résolut bravement de savoir à quoi s'en tenir sur ses espérances et de pénétrer dans l'âme de Colombe, dût-il n'y trouver que de l'indifférence. Ascanio prenait cette décision en revenant le long du quai et en regardant le soleil qui se couchait flamboyant derrière la tour de Nesle toute noire. Arrivé à l'hôtel, sans plus tarder ni hésiter, il alla d'abord chercher quelques bijoux, et puis vint résolument frapper quatre coups à la porte du petit Nesle. Dame Perrine, par bonheur, se trouvait aux environs. Saisie d'étonnement et de curiosité, elle se hâta d'aller ouvrir. Toutefois, en voyant l'apprenti, elle se crut obligée de lui faire froide mine.
Ah, « C'est vous, monsieur Ascanio, » dit-elle. « Que demandez-vous ? » ?»«
Je demande, ma bonne dame Perrine, à montrer tout de suite ses bijoux à mademoiselle Colombe. Est-elle au jardin ?»«
Oui, dans son allée, mais attendez-moi donc, jeune homme. »
Ascanio, qui n'avait pas oublié le chemin, marchait rapidement sans plus penser à la gouvernante.
Colombe, depuis 10 jours, n'en était plus à se demander si Ascanio était devenu sa plus chère pensée. L'ignorante et pure enfant ne savait pas ce que c'était que l'amour, mais l'amour remplissait son cœur. Elle se disait qu'il y avait du mal à se complaire dans ses rêves, mais elle se donnait pour excuse qu'elle ne reverrait certainement plus Ascanio et qu'elle n'aurait pas la consolation de se justifier à ses yeux.
Sous ce prétexte, elle passait toutes ses soirées sur le banc où elle l'avait vu assis près d'elle, et là, elle lui parlait, elle l'écoutait, elle concentrait toute son âme dans ce souvenir. Ce soir-là, comme à l'ordinaire, Colombe était en train de faire revivre l'heure délicieuse passée auprès d'Ascanio, quand, relevant les yeux, elle jeta un cri. Il était debout devant elle, la contemplant en silence. Il la trouvait changée, mais plus belle. La pâleur et la mélancolie allaient bien à sa figure idéale. Elle paraissait appartenir encore moins à la terre. Aussi Ascanio, en l'admirant plus charmante que jamais, retomba dans les modestes appréhensions que l'amour de Madame d'Étampes avait un moment dissipées. Comment cette céleste créature pourrait-elle jamais l'aimer? Colombe, muette et rougissante, s'était levée par un mouvement soudain. Ascanio, pâle d'émotion, contenait d'une main tremblante les battements de son cœur. Ils prirent tous deux à la fois la parole, lui pour dire « Pardon, mademoiselle, vous m'aviez permis de vous montrer quelques bijoux. » Elle, disant « Ah, je vois avec joie que vous êtes entièrement remis, monsieur Ascanio. » Ils s'interrompirent en même temps, mais quoique leurs douces voix se fussent mêlées, ils avaient parfaitement entendu l'un et l'autre. Car Ascanio, enhardi par le sourire involontaire que naturellement l'incident amena sur les lèvres de la jeune fille, répondit avec un peu plus d'assurance « Vous avez donc la bonté de vous rappeler encore que j'ai été blessée ? Oh, nous avons été très inquiètes et étonnées de ne pas vous revoir, dame Périne et moi, reprit Colombe. Je ne voulais plus revenir. Pourquoi donc ? Ascanio, à ce moment décisif, fut contraint de s'appuyer contre un arbre, car il rassembla toutes ses forces et tout son courage, et d'une voix tremblante, il dit « Je puis maintenant vous l'avouer, je vous aimais. » « Et maintenant ?» Ce cri échappa à Colombe. Il eut dissipé tous les doutes d'un plus habile qu'Ascanio. Il ranima seulement un peu ses espérances. « Maintenant, hélas, continua-t-il, j'ai mesuré la distance qui nous sépare. Je sais que vous êtes l'heureuse fiancée d'un noble comte. »« Heureuse, » interrompit Colombe en souriant amèrement. « Comment, vous n'aimeriez pas le comte, grand Dieu ? Oh, parlez, est-ce qu'il n'est pas digne de vous ? Il est riche, il est puissant, il est bien au-dessus de moi, mais l'avez-vous vu déjà ?»« Non, j'ai craint d'interroger. » D'ailleurs, je ne sais pourquoi, mais j'avais la certitude qu'il était jeune et charmant et qu'il vous plaisait. « Il est plus âgé que mon père et il me fait peur, » dit Colombe, en cachant son visage dans ses mains avec un geste de répulsion dont elle ne fut pas maîtresse. Ascanio, éperdu de joie, tomba à genoux, les mains jointes, pâle et les yeux à demi fermés, mais un regard sublime rayonnait sous sa paupière, et un sourire, beau à réjouir Dieu, s'épanouissait sur ses lèvres décolorées. « Qu'avez-vous, Ascanio ? » dit Colombe effrayée. « Ce que j'ai ? » s'écria le jeune homme, trouvant dans l'excès de sa joie l'audace que lui avait d'abandonner la douleur. « Ce que j'ai, mais je t'aime, Colombe !» « Ascanio, Ascanio !» murmura Colombe avec un accent de reproche et de plaisir, tendre, il est vrai, comme un aveu. Mais ils s'étaient entendus, leurs cœurs s'étaient mêlés, et, avant qu'ils s'en fussent aperçus, leurs lèvres s'étaient confondues. « Mon ami !» dit Colombe, en repoussant doucement Ascanio. Ils se regardèrent ainsi comme en extase. Les deux anges se reconnaissaient. La vie n'a pas deux de ces moments-là. Mais ils en viennent à parler de l'avenir, et alors ils deviennent sérieux et tristes. Qu'est-ce que Dieu leur gardait pour le lendemain ? Selon les lois divines, ils étaient faits l'un pour l'autre, mais les convenances humaines déclaraient leur union mal assortie, monstrueuse. Que faire ? Comment persuader au comte d'Orbec de renoncer à sa femme ? Au prévôt de Paris de donner sa fille à un artisan ? « Hélas, mon ami, dit Colombe, je vous promettais de n'appartenir qu'à vous au ciel, et je vois bien que c'est au ciel que j'appartiendrai. »« Non, dit Ascanio, c'est à moi. Deux enfants comme nous ne pourraient seuls remuer tout un monde, mais je parlerai à mon cher maître, à Benvenuto Cellini. C'est celui-là qui est puissant, Colombe, et qui voit le haut de toutes choses. » « Ah, cher Ascanio, vous espérez, j'espère. Voulez-vous que, de mon côté, je tente quelque chose ? Parlez,
Il est quelqu'un qui peut tout sur l'esprit de mon père. Voulez-vous que j'écrive à Madame d'Étampes ?»« Madame d'Étampes !» s'écria Ascanio. « Mon Dieu, je l'avais oublié !» Alors Ascanio, très simplement et sans aucune fatuité, raconta comment il avait vu la duchesse, comment elle l'avait aimée, comment, le jour même, une heure auparavant, elle s'était déclarée l'ennemie mortelle de celle qu'il aimait. Mais quoi, la tâche de Benvenuto en serait un peu plus difficile, voilà tout, ce n'était pas un adversaire de plus qu'il effrayerait. « Mon ami, dit Colombe, vous avez foi en votre maître, mais moi j'ai foi en vous. Parlez à Cellini le plus tôt que vous pourrez, et qu'il dispose de notre sort. Dès demain, je lui confierai tout. Il m'aime tant, il me comprendra tout de suite. Mais qu'as-tu, ma Colombe, te voilà toute triste ?» Chaque phrase du récit d'Ascanio avait fait sentir à Colombe son amour, en appuyant sur son cœur la pointe de la jalousie, et plus d'une fois, elle avait serré convulsivement la main d'Ascanio qu'elle tenait dans les siennes. « Ascanio, elle est belle, Madame d'Étampes, elle est aimée d'un grand roi. N'a-t-elle laissé dans votre esprit aucune impression, mon Dieu ?»« Je t'aime, dit Ascanio. Attendez-moi là, fit Colombe. » Elle revint un instant après avec un beau lys frais et blanc. « Écoute, dit-elle, quand tu travailleras au lys d'or et de pierreries de cette femme, « regarde quelquefois les simples lys du jardin de ta colombe. » Et aussi coquettement que Madame d'Étampes l'eût pu faire, elle mit sur la fleur un baiser et la donna à l'apprenti. Là-dessus, il s'enfuit avec sa joie, jetant à Colombe un dernier regard qui lui disait tout ce qu'il avait à lui dire. Hélas, la pauvre enfant fut terriblement réveillée de ses doux songes. Une femme se présenta, accompagnée d'un des hommes du prévôt. « Monsieur le comte d'Orbec, qui revient après-demain, dit cette femme, se met dès aujourd'hui au service de madame. Je suis au courant des plus nouvelles et des plus belles façons d'habit, et j'ai reçu l'ordre de monseigneur le comte et de messieurs le prévôt de confectionner à madame une magnifique robe de brocart. Madame la duchesse d'Étampes devant présenter madame à la reine le jour du départ de sa majesté pour Saint-Germain, c'est-à-dire dans 4 jours. » Après la scène que nous venons de mettre sous les yeux du lecteur, on devine quelle désespérante impression cette double nouvelle produisit sur Colombe.